sujet de discussion.
Merci de nous retrouver à présent pour notre sujet de discussion. Nous avons choisi de jeter un regard sur le phénomène Kadhafi, en parlant justement de comprimés, de drogues et puis de boissons alcoolisées et très alcoolisantes d'ailleurs. Ghislain Pélivien Coulibaly, sociologue, est avec nous pour justement parler un peu des causes et des conséquences. Hein. Justement, nous allons ensemble trouver des solutions à ce fléau, à ce phénomène. Ghislain, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Alors déjà aujourd'hui, le phénomène Kadhafi... Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire en quoi est-ce que ça consiste ?
Alors disons que sans embâge, hein, c'est une incitation à la consommation de la drogue. Malheureusement, le célèbre guide libyen Muammar Kadhafi a son nom qui est vraiment mêlé à ce phénomène qui s'apparente à un vrai danger, à un phénomène de société... qui pose un problème de santé publique. Alors, je veux voir mon Kadhafi.
Ils ont certainement pris Kadhafi pour marquer toute la résilience.
Oui, toute la résilience. Libyen,
alors que ce n'est pas le lieu, justement.
Ce n'est pas le lieu.
De rendre cet hommage, là, aussi.
En réalité, c'est que le Kadhafi, c'est une drogue. C'est une drogue qui est un mélange de comprimés, tramadol dosé à 250 mg, et la boisson alcoolisée Vody dosée à 18% d'alcool. Et quand vous regardez dans l'imagerie populaire, en termes d'appellation, comment ils font pour reconnaître, ils ont des codes. Alors, m'a-t-on dit que cette drogue-là est appelée 225 ? 225. Okay. Mais 225, curieusement, c'est l'indicatif de la Côte d'Ivoire.
Ouais.
Alors, certains aussi appellent cette drogue la pomme. Bon, c'est quel type de pomme ?
De pomme.
On ne sait pas.
Alors, tellement de noms pour ne pas que les parents se rendent compte.
Et d'autres noms même l'appellent encore Capitaine Béret Rouge.
Ouais.
Parce qu'en fait, ces comprimés appelés tramadol sont rouges. Et on fait allusion au béret rouge pour dire que on est à la page.
On est solide également.
On est solide, on est robuste. Donc voilà, c'est une drogue. Et cette drogue, malheureusement, expose le consommateur à la perte de réflexes, à la somnolence, aux démangeaisons. Et malheureusement, le sujet qui prend cette drogue a le regard pratiquement hagard. C'est un regard perdu, c'est un regard qui regarde dans le vide et malheureusement, ça peut déclencher des actes de violence chez l'individu. Alors, Internet est un exutoire, malheureusement, pour faire passer cette drogue dans les habitudes et dans les comportements. On mobilise les réseaux sociaux, notamment TikTok, où même un challenge est lancé. Malheureusement, quand vous regardez cette jeunesse ivoirienne, qui est la majorité sociologique, est touchée de plein fouet par ce fléau qui est en train de décimer non seulement la jeunesse dans son entièreté, mais surtout les mineurs. Donc aujourd'hui, ceux qui s'adonnent à cette pratique sont dans une tranche d'âge généralement de moins de 18 ans.
Moins de 18 ans aussi. Le constat, justement, après l'état des lieux, c'est qu'on a peur. Est-ce que c'est une fuite en avant de la jeunesse qui ne se sent plus concernée justement par les choses de la société, par la gestion de la cité ? Est-ce que c'est une totale déliquescence des familles, des parents, Ghislain ? Revenons un peu sur les causes.
Alors, pour moi... cette consommation de cette drogue appelée Kadhafi n'est pas un fait nouveau, puisque aujourd'hui on assiste à une sorte de banalisation. Vous m'excusez de le dire.
C'est pas si nouveau que ça.
Non, c'est pas nouveau. C'est une sorte de banalisation de la consommation de la drogue. Et malheureusement, quand on regarde, cette consommation est accompagnée d'une chanson. Je veux voir mon Kadhafi, bang bang. Je veux voir mon Kadhafi, bang bang. Et c'est devenu un refrain. Et partout on chante et c'est accompagné de pas de danse. Mais quels sont les déclencheurs ? Pour moi, déjà, la cellule familiale a explosé.
Ouais.
Aujourd'hui, on sent un total effondrement de nos familles qui sont des institutions piliers de ce processus de socialisation. Mais vous savez, lorsqu'on introduit dans nos pays africains, au nom des droits de l'homme, certaines mesures qui aujourd'hui ont des effets pervers, m'a-t-on dit justement qu'en Côte d'Ivoire, on ne doit plus porter main aux enfants. Et quand vous regardez, il y a eu des défenseurs de ces pratiques où on ne souhaitait plus qu'on mobilise la violence socialisante.
Mmh.
Oui, parce qu'en réalité, les enfants aujourd'hui à qui on ne peut plus parler, à qui on ne peut plus, je vais dire...
mettre une fesse peut-être.
Une petite tapote aujourd'hui.
Une fessée.
Une petite fessée. Mais aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est que ce sont nos enfants qui nous éduquent. Voilà. Ce sont ces enfants qui nous éduquent.
Ça devient des enfants monstres. Je ne vous arrête pas, mais on peut constater une chose. C'est vrai que la violence n'est pas la panacée en termes d'éducation efficiente.
Oui, absolument.
Mais comment, Ghislain, faut-il parler à un enfant pour qu'il ait peur, pour qu'il comprenne que c'est l'autorité qu'on a en face?
Oui, mais tu utilises un mot important, l'autorité. Oui, les parents doivent incarner cette autorité qui permet d'éduquer, cette autorité qui permet de transmettre des valeurs. Et donc, il faut certainement trouver les meilleurs moments où l'enfant est disposé et effectivement à écouter. Et il faut éviter peut-être d'humilier les enfants en présence des autres. Je pense qu'il faut trouver un canal où le parent est seul avec l'enfant et essaie d'avoir des moments de qualité. Non, moi, je préfère parler de moments de qualité
pour transmettre des valeurs. On a une des journalistes qui a sorti un super ouvrage, « Comment j'ai élevé mes enfants ». Elle parle ainsi d'une mère seule en termes d'éducation, de monoparentalité. Elle a parlé de communication qui est une totale panacée. Mais en même temps, lorsqu'il n'a pas communication, pour ceux justement pour qui il y a déficit de communication, qui utilise à la fois la violence, après 2, 3, 4 violences, l'enfant qui se retrouve dans la rue, qui commence à consommer de la drogue, lorsqu'il revient à la maison, il y a violence. Et puis on s'est rendu compte justement que c'est un fait divers. À Yopougon, il y a eu un jeune homme justement qui a assassiné sa mère avec une barre de fer malheureusement. Ça veut dire que il y a un danger lorsqu'il n'y a plus de communication et que l'enfant déjà devient violent.
Oui, je pense qu'il faut absolument qu'on revoie nos formes de communication avec les enfants et trouver des moments de qualité. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, avec la crise économique, les parents sont tout le temps partis. Et je ne parlerai pas de démission, mais il faut que la mamie bouillisse à la maison. Le père est parti, la mère est partie et les enfants sont livrés à eux-mêmes. Mais ce que la consommation de la drogue traduit au niveau de notre jeunesse, c'est aussi cette crise d'amour. On a l'impression que ces enfants-là manquent d'amour et vont se réfugier, n'est-ce pas, auprès de leurs amis pour pouvoir rechercher cet amour-là. Ou ce réconfort paternel, malheureusement.
On a soit les amis ou bien même les réseaux sociaux.
Ou même les réseaux sociaux. Mais en réalité, on a une crise d'amour, mais on a aussi une crise de valeur. Malheureusement, ces enfants qui devraient être dans l'excellence se retrouvent dans la médiocrité. Parce que quand vous regardez sur les réseaux sociaux, on a une sorte de vie virtuelle qui s'apparente à de la facilité. Et on fait la promotion d'une vie facile,
luxueuse.
On fait la promotion d'une vie luxueuse, alors qu'on devrait ramener les enfants à la réalité. La réalité, c'est que papa et maman souffrent pour pouvoir prendre en charge les membres de la famille. Et donc, pour moi, crise de valeur, crise d'autorité, crise aussi de personnalité. Malheureusement, cette jeunesse-là n'a pas de personnalité. Ces jeunes-là sont influençables à souhait dès qu'ils se retrouvent dans des sphères avec d'autres groupes de pères. Tout de suite, ces enfants sont influencés. Lorsqu'ils sont sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont les armes pour pouvoir se protéger contre l'adversité?
Tout à fait.
Voilà, donc autant de questions qu'on peut se poser. Mais pour nous, la jeunesse ivoirienne, c'est plus de 75% de la population ivoirienne. C'est une majorité sociologique. C'est une force économique. Donc, on a l'impression que cette jeunesse est en train d'être détruite. Et la question qu'on pourrait se poser, mais est-ce que la relève est assurée ?
En même temps, la question également, est-ce que les jeunes sont seuls coupables de cette situation, Ghislain ? Avant de parler justement de tout cela, pour indexer un peu les parents, pour indexer même la société, l'État, tout le monde a sa part de responsabilité. On va aussi toucher le phénomène du déséquilibre hein, dans la gestion des finances à la maison. Lorsque c'est un peu difficile pour les parents et que l'enfant, en même temps, est élève ou étudiant, c'est difficile de joindre les deux bouts, mais en même temps, il a un téléphone de dernière génération. Comment expliquer cela ? Parce que l'un dans l'autre, on peut être amené à être un dealer, on peut être amené même à consommer de la drogue, et finalement, ça va dans tous les sens. Analyse de cette situation.
Oui, je pense que tout à l'heure, je le disais, c'est vrai que la cellule familiale a sa part de responsabilité. Tu l'as dit, le gouvernement et tous les autres acteurs, donc l'école, la société. Mais il faut qu'on dise clairement que les jeunes ont leur part de responsabilité. Aujourd'hui, les jeunes sont dans cette culture de la médiocrité, dans cette culture de la violence, dans cette culture caractérisée par la passivité, c'est la médiocrité. Et pour nous, ces jeunes-là sont dans l'enrichissement illicite. C'est une sorte de culture pressée, comme le coupé décalé. Parce que effectivement, on a eu aussi des tendances musicales qui ont présenté des personnes avec un train de vie mirobolant. Et ces jeunes-là sont dans l'imitation, ces jeunes-là copient, et ces jeunes veulent exister, mais exister à travers les supports qu'ils ont, dont le téléphone, la voiture, les habits et autres. Et ces jeunes n'ont pas de limites. Ces jeunes n'ont pas de limites. Et quand vous regardez, dans la cellule familiale, en principe, on a ce qu'on appelle la répartition des tâches ménagères.
Tout à fait.
Ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on confine les femmes dans les tâches ménagères et les hommes dans tout ce qui est rôle stratégique, on a un écart, une inégalité qui fait que les petites filles, malheureusement, n'ont pas cette possibilité de s'adonner à leur alphabétisation, à leur scolarisation, etc. etc. Donc, pour moi, il faut commencer à réduire les déséquilibres déjà dans la cellule familiale. Et si, dans cette tendance, on retrouve les jeunes et les petites filles dans ces comportements de drogue et autres, il faut dire qu'on a beaucoup plus de jeunes garçons. Parce qu'en réalité, s'ils étaient aussi occupés aux tâches ménagères, peut-être cela aurait réduit leur temps de loisir.
Oui, c'est vrai. Donc, quoi qu'on dise, en termes de risque, les filles prennent moins de risques.
Moins de risques, quoi qu'elles sont impliquées dans le phénomène de la consommation de cette drogue, appelé Kadhafi ou d'autres formes de drogue, mais ce sont plus les jeunes garçons qui sont exposés. Et donc, il faut revoir la division sociale du travail, il faut revoir la répartition, justement, des tâches ménagères. Mais mieux, il faut qu'on regarde aussi quelles sont les formes que prennent nos familles. Est-ce qu'on est dans des familles où la femme éduque seule son garçon ou ses enfants? Est-ce que c'est l'homme qui éduque seul ses enfants? Est-ce que c'est la monoparentalité? Est-ce qu'on se retrouve avec des familles recomposées? Et donc, toutes ces formes de partenariat peuvent avoir un impact aussi sur la prise en charge des enfants.
Justement, dans toutes ces formes de famille, il y a toujours problème en termes de famille recomposée, inadéquation avec le nouveau papa, la nouvelle maman. On essaie justement de trouver un exutoire. On essaie de s'isoler quelque part justement pour avoir un réconfort. On pourrait consommer de la drogue. Il y a des familles où papa et maman sont pleins aux as, mais n'ont jamais le temps. Justement, l'enfant trouve qu'il faut pouvoir, penser à s'isoler, à trouver quelque chose à faire, même si on est élève ou étudiant. Et puis, on a d'autres où il y a certainement difficultés financières, mais en même temps, on est un peu plus de 10 enfants. Ouais. Il y a souvent la polygamie. Le papa n'a pas toujours le temps de discuter avec les enfants. Chacun se bat comme il peut. Pour tous ces cas de figure, Ghislain, quelle est peut-être la panacée ? Quel genre de propositions on pourrait faire pour réduire, pour moins effrayer les populations, justement ?
Alors, moi, je pense que déjà, il faut capturer le dividende démographique. Capturer le dividende démographique, c'est voir combien d'enfants aussi on fait. Puisque aujourd'hui, quand vous prenez le ratio, on a 5,4 enfants par femme. C'est la moyenne.
Ok.
C'est la moyenne actuellement en Côte d'Ivoire. Et donc, quand vous prenez, chaque femme a en moyenne 5 à 6 enfants. Donc, quand on regarde le contexte économique caractérisé par toutes les turbulences en Russie, etc., qui ont des impacts sérieux sur l'Afrique, avec la flambée des prix. Je pense qu'il faut savoir raison garder, avoir un nombre d'enfants qu'on peut justement gérer ou qu'on peut valablement prendre en charge. Parce que quand on se retrouve avec beaucoup d'enfants dans une famille, il y a des risques que ces enfants soient dans la déperdition, que ces enfants soient exclus de l'école parce qu'on n'a pas les moyens, d'accompagner ce processus de scolarisation.
On ne les suit même pas, quand ils sont à l'école. On ne les suit pas
parce que non seulement il y a la pauvreté qui peut être un déclencheur de cette situation qu'on voit, mais il peut y avoir aussi même les cas de divorce. On peut se retrouver, après avoir des conflits dans le couple, qui vont emmener peut-être un des parents, un des partenaires à démissionner carrément de son rôle. Et malheureusement, tout cela peut exposer les enfants. Donc, on se retrouve avec un environnement social qui est gangréné par certaines contre-valeurs. Et donc, aujourd'hui, la consommation de la drogue, malheureusement, prend le pas sur l'excellence à l'école. Et regardez, nos écoles sont prises en otage par des maquis, sont prises en otage par des fumoirs, sont prises en otage par tout ce qui prolifère autour de l'école.
Parce qu'il y a certains même qui ont leurs amis, qui sont consommateurs, qui viennent les voir à l'école. Qui viennent même intimider les autres.
Oui, nous sommes en période de rentrée scolaire. Il faut que l'environnement scolaire soit assaini. Et nous profitons de cette antenne pour lancer un appel à tous les acteurs du système éducatif. Il faut protéger l'environnement scolaire. Parce qu'un enfant qui côtoie la drogue au quotidien est tenté et finira par toucher à cette drogue. On a des dealers qui rôdent autour de nos établissements et malheureusement, les enfants qui sont entre le CP1 et le CM2, donc au primaire, n'y échappe pas. Quand vous prenez, par exemple, le vendeur de Garba, qui est un relais potentiel de la drogue, quand vous prenez la femme qui vend le sachet d'eau à côté de l'école, le vendeur de Poki, qui se promène d'établissement en établissement pour écouler sa marchandise, malheureusement, c'est des réseaux. C'est des réseaux qu'il faut démanteler et il faut appeler la fermeté du gouvernement ivoirien contre toutes ces pratiques.
Alors pour les parents, justement, on sait qu'il y a transmission de valeurs. Lorsqu'il y a insuffisance en termes de transmission, on est exposé à tous ces fléaux-là. Quel message, Ghislain Koulibaly, on peut adresser aux parents pour ceux qui se plaignent qu'ils n'ont jamais le temps? Certains ne connaissent même pas les classes de leurs enfants. Il est en sixième, juste dans tel lycée. Sixième combien? Qui est son prof de temps? Bon, tout ça, c'est pas son problème. Comment il faut faire? Certaines femmes sont désabusées, elles sont fatiguées parce que le papa n'est toujours pas là, il n'est jamais là. Elle ne peut plus tenir, les enfants grandissent et ils sont devenus des rebelles pratiquement. Comment il faut s'organiser pour vous qui êtes sociologue, qui connaissez les mentalités, qui étudiez quasiment les habitudes des populations?
Alors, aux parents, je voudrais dire que la personnalité de base se construit entre 0 et 6 ans. La personnalité de base, c'est entre 0 et 6 ans. Et après 6 ans, vous allez constater que c'est la personnalité de base qu'on essaie de développer pour qu'on ait la personnalité secondaire. Il faut que les parents sachent qu'avoir des enfants, c'est une responsabilité.
Et donc, c'est une profession, maman.
C'est une profession, c'est une responsabilité. Et il faut que les parents mettent en place une véritable stratégie au niveau interne pour éduquer ses enfants. Parce que lorsque vous n'avez pas le temps de suivre le travail des enfants, l'enfant peut réinterpréter ce comportement comme un manque d'attention à son endroit, comme un manque d'amour à son endroit.
Avant que continuer, Ghislain, j'ai une petite remarque. Lorsque l'enfant a entre 0 et 6 ans, Et il demande des choses que les parents refusent, il se jette par terre, il pleure, on lui donne la chose après. C'est quelle forme de comportement ? Est-ce que c'est ce qui est adéquat ? Si ce n'est pas adéquat, comment il faut gérer cette partie-là ? Parce que pour l'amour qu'on a pour l'enfant, souvent, avec mille et un styles, on va en parler tout à l'heure, des dreadlocks qu'on fait aux enfants de 2-3 ans, est-ce que c'est la bonne formule ? Est-ce que ça ne crée pas un enfant qui se dit qu'il est supérieur à tout le monde ?
Oui, oui, vous savez que de 0 à 6 ans, effectivement, c'est là où on transmet les valeurs cardinales à l'enfant. Mais l'enfant aussi est en train de développer une personnalité. Et donc, l'enfant peut jouer sur vos sentiments, vos émotions, en vue de tirer le meilleur de vous. Mais en tant que parent, on sait ce qui est bon ou n'est pas bon pour notre enfant. Donc, il faut faire l'arbitrage par rapport aux demandes des enfants. Si un enfant vous demande des choses, il faut être capable de pouvoir lui dire non en justifiant votre réponse. Je pense que ce qui manque, c'est lorsque les parents disent non sans motiver leur réponse. Lorsqu'ils disent
dans
oui
le rapport de force,
sans motiver leur réponse.
Ils soutiennent qu'ils n'ont pas à s'expliquer souvent dans le rapport de force.
En réalité, ne prenons pas nos enfants comme des personnes qui n'existent pas. Non, ces enfants-là ont un cœur, ces enfants-là ont une capacité d'analyse. Même enfant, il retient tout ce qui est fait. Donc, il faut savoir dialoguer parce que le dialogue, là, ce n'est pas dans un sens unique. Il faut dire exactement à l'enfant pourquoi tel choix. L'enfant demande un portable. Vous savez que l'enfant est encore à l'école. Vous lui dites simplement que le portable, tu pourras l'avoir lorsque tu auras le bac. Parce que quand tu as le portable, tu peux être exposé, tu peux être distrait. Ça peut impacter tes résultats scolaires. Donc, une fois que tu expliques cela à l'enfant, tu lui donnes les armes d'aller justement se protéger contre ses amis qui viendraient avec les portables et lui diraient, écoute, tu es gaou parce que tu n'as pas de portable et qu'à ce stade-là, tous les jeunes ont une petite amie ou tous les jeunes ont un portable. Donc, il faut dans la cellule familiale préparer l'enfant, n'est-ce pas, à se retrouver dans des groupes de pairs et pouvoir résister à la tentation.
Alors, on a parlé justement de présence hein, de parents, de transmission des valeurs. Lorsqu'à la base, il y a un travail qui a été fait, on se retrouve à l'adolescence maintenant. Les jeunes ont 3 comportements pour certains. On est un ange à la maison. Exactement. D'ailleurs, on est organisateur de soirées dans les résidences, qu'ils appellent naturellement Zé Party, ouais. Hein, où tout peut arriver, où l'enfant peut côtoyer le vice. Pour ce genre de situation, je pense que c'est hyper difficile à gérer, Ghislain. Ouais. Comment faire lorsque son enfant, justement, nous démontre, hein, l'enfant démontre qu'il a un comportement exemplaire, alors qu'il a plusieurs groupes d'amis où là-bas, c'est la culture du vice.
Oui, mais je
pense que qu'est-ce qui n'a pas marché, justement ?
Non, le constat qu'on fait, c'est que lorsque les enfants entrent dans la préadolescence et ensuite dans l'adolescence, ils développent une sorte de rébellion. Et donc, on proteste contre l'autorité parentale, on commence même à développer de mauvais sentiments en disant que mes parents ne m'aiment pas. Voilà, mes parents ne m'aiment pas. C'est des gens qui ne se conforment pas aux règles établies même dans la cellule familiale. On lui dit rentre à 19h, il rentre à 22h. Pour défier l'autorité des parents, il faut d'abord que les parents eux-mêmes comprennent que lorsque l'enfant rentre dans un tel cycle, c'est un cycle où ces hormones, justement, qui sont libérées, sont des hormones qui vont dénaturer sa personnalité. Et il est dans une sorte de zone de complexité. Il est à la recherche de sa personnalité. Et donc, si tu comprends cette phase, tu dois pouvoir l'accompagner, tu dois pouvoir l'encadrer et non se positionner comme quelqu'un qui vient casser cette personnalité qui essaie d'émerger.
Ça, c'est le premier cas de figure. Hein.
Oui, c'est le premier cas de figure où l'enfant est vraiment dans la rébellion. Ouais. Mais lorsque l'enfant est dans cette sorte d'adolescence ou de préadolescence, où il est à la recherche aussi de réponses, parce que c'est la phase de questionnement. Ouais. Sur la vie, sur tout ce qui est rapport sexuel, pourquoi est-ce qu'il voit d'autres fumer et lui, il ne fumerait pas ? Pourquoi il voit d'autres boire et il ne boirait pas ? Pourquoi d'autres s'habillent en sexy mini, sortent de leur maison pour se retrouver dans la rue et lui, il ne pourrait pas le faire ? Et donc, c'est là où les parents doivent aussi commencer à donner certaines réponses à leurs enfants et en essayant d'établir des espaces de dialogue, des espaces d'échange, des espaces de partage d'expérience. Parce que le parent est expérimenté justement. Et fort de cette expérience qu'il doit capitaliser, il faut qu'il trouve, n'est-ce pas, des moments favorables où l'enfant est à son écoute. Il passe un certain nombre de messages pour protéger l'enfant et donner les armes à l'enfant pour qu'il se protège lui-même. Or, ces parents-là, n'ayant pas le temps, malheureusement, n'arrivent pas à prendre en main l'éducation de leurs enfants. Mais lorsque tu n'éduques pas ton enfant à la sexualité, mais la rue éduque l'enfant, mais de la plus mauvaise des manières.
On a justement, j'en parlais, le fameux scénario selon lequel on est ange à la maison, démon dehors. Comment ça peut s'expliquer, ça?
Oui, c'est tout à fait normal. Vous savez que les enfants jouent avec nos émotions. On a des enfants, effectivement, à la maison qui sont des anges parce qu'ils veulent montrer la meilleure image possible. Mais lorsque l'enfant franchit le portail, il est dans une autre sphère, dans une autre... En fait, c'est un tout autre homme. C'est un tout autre homme parce qu'il a conçu une personnalité de caïd dehors. Dehors, c'est lui le chef de gang, c'est lui le leader. Mais malheureusement, ce leadership, comment il l'utilise? Parce qu'en réalité, lorsqu'on convoque ses parents, on lui dit, mais voilà ce que ton enfant a fait. Il dit, quoi? Mon enfant? Non, celui que je connais, il n'aurait jamais fait ça. Il n'aurait jamais fait ça parce que les enfants ont une double personnalité. Voilà. Et quand c'est comme ça, il faut éviter de dire que mon enfant ne peut pas le faire. Il faut d'abord recevoir l'information, traiter l'information et surtout mettre en place un système de veille. Quand l'enfant sort, il faut chercher aussi à savoir quelle est sa fréquentation, avec qui il marche. Ça permet aussi de savoir les différents milieux que ton enfant côtoie, qui côtoie. Et quand les enfants viennent, il faut aussi qu'on prenne le soin de fouiller dans leur placard, de fouiller dans leur sac. Parce qu'on a des enfants, ils sortent, mais dans le sac, on a des habits de réchange. Parce qu'ils ont une autre vie dehors. C'est ça. Les enfants ont une seconde vie dehors. Et cette vie-là, nous, on ne la maîtrise pas. Mais attention, avec cette culture numérique, nos enfants sont à la pointe de la technologie. Et malheureusement, nous, nous sommes les analphabètes du 21e siècle. Et donc, ces enfants-là, même quand on leur donne des conseils, ils nous retorquent. Or, ton temps est passé. Actuellement, tu ne comprends pas les problématiques que nous avons. Donc, on a des rapports de force qui s'établissent où les enfants veulent s'imposer à nous. Et lorsqu'il est dans cette phase, avec une double ou un triple comportement, il faut pouvoir le cerner et chaque fois le recadrer et ne jamais abandonner l'enfant.
Avant de toucher justement l'aspect sociétal, policier, qu'est-ce que la police doit faire justement? On a vu un peu une descente dans différents endroits, à Bobo-Gare, je crois. On a également l'école, le rôle de l'école. Moi, je me rappelle que le maître ou la maîtresse était une autorité incroyable, qu'on allait saluer avec une déférence incroyable. La peur d'échouer, la peur de ne pas avoir la moyenne. Donc, l'école avait son rôle. Aujourd'hui, on a l'élève qui défie le professeur, le congé anticipé qui est prévu pour le 22 veut l'être pris de 10. La place de l'école finalement, pour ceux qui vont à l'école.
Malheureusement, c'est un constat qui est juste. Le tableau que vous venez de présenter est juste, où on a déconstruit le mythe du maître, on a déconstruit le mythe de l'enseignant. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui s'imposent justement à leurs éducateurs, à leurs maîtres, à leurs enseignants. C'est dommage, c'est un constat que nous faisons. Je pense que le gouvernement est sur la bonne voie. Il y a eu les états généraux. Il faut maintenant commencer à mettre en œuvre les résultats de ces états généraux. Et avec l'avènement de la ministre Kone Marietou, qui est une professionnelle du domaine, qui est une mère de famille, elle essaie, avec toute son équipe, d'abord de respecter le quantum horaire. Oui, il faut respecter le quantum horaire. Si nous voulons donner une bonne éducation à nos enfants et faire en sorte de développer des compétences dans certaines matières chez les enfants, il faut respecter le quantum horaire. Donc moi, pour moi, la première des choses, c'est de faire en sorte que le quantum horaire soit respecté et il faut un langage de fermeté. Les enfants ne peuvent pas imposer leur dictat au gouvernement ivoirien encore moins au niveau du système éducatif. Un enfant, lorsqu'il rentre à l'école, par exemple, la rentrée c'était le 11, il faut que les éducateurs, comme on l'a toujours fait, soit devant les établissements. Quand un enfant vient, il faut regarder comment il est vêtu, comment il est habillé. Un enfant qui vient à l'école en drude, dans le public, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas, nous, l'habitude de voir. On ne peut pas tout permettre aux enfants. Un enfant qui vient et son pantalon est en dessous, des fesses. Vous voyez, un enfant qui vient qui n'est pas fourré. Il faut que les éducateurs regarde les habillements dès le premier jour de rentrée.
C'est pas une digression, mais ceux qui se fourrent chaque fois à l'entrée de l'école, ça également c'est un problème. Il sait bien qu'il va devoir se fourrer, mais il vient de fourrer et c'est lorsque l'éducateur l'interpelle qu'il se fout. Et ça tous les matins.
Oui, mais
c'est quoi ça finalement?
Mais aujourd'hui on a des enfants qui ne veulent même pas se fourrer. En réalité les enfants veulent même pas s'habiller. Aujourd'hui ce qu'on regarde c'est la nudité. On fait l'apologie de la nudité. C'est des filles qui sont habillés, mais à peine vêtus. Ce sont des garçons qui sont débraillés. Vous m'excuserez, mais vous allez voir leur sous-corps, vous allez voir leur dessous, etc. Donc, aujourd'hui, même se vêtir est un problème chez cette jeunesse. Et donc, quand ils reproduisent ces comportements malsains à l'école, ça gangrène. Et c'est pour cette raison que les éducateurs doivent être vigilants. Il faut que les éducateurs soient fermes dans le respect, non seulement des programmes, mais dans le respect des règles. Mmh. Et il faut aussi que les parents collaborent. Il ne faut pas abandonner les enfants dans les mains de l'école.
Dans les mains de l'école.
L'école ne peut pas remplacer l'institution familiale. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, effectivement, ce à quoi on assiste, c'est que l'école est en train de se repositionner. Et l'école se repositionne comme un levier de promotion de l'excellence. Parce qu'en réalité, ce qui a tué l'école aussi, c'est la tricherie. C'est la tricherie et c'est le laisser-faire. Donc, il faut que l'école reprenne ses droits et que ces enfants-là comprennent qu'ils sont en réalité dans un système d'excellence. Et il faut éviter de faire passer les enfants avec des 8, des moyennes, voilà. Il faut respecter. Si on dit on passe avec 10, faut pas dire non, il a 8, mais il peut passer en classe supérieure. Il faut être strict, il faut être ferme.
Il faut être ferme. Merci infiniment, Ghislain. Ça va qu'on a utilisé le prétexte du fléau en ce moment, du phénomène de la drogue qui ne fait que monter. Et puis, on a justement posé le problème justement des fléaux qui touchent notre jeunesse avec les comportements déviants en termes même de code vestimentaire. Le Kadhafi, ce n'est pas seulement la drogue. Je pense que c'est un tout, parce que ça s'accompagne de tout cela. Alors, le regard, justement, la police fait son travail, l'État fait son travail. Qu'est-ce qu'il faut renforcer aussi?
Je pense qu'il faut que nous-mêmes aussi, on donne l'exemple. Il faut qu'on soit des modèles, parce qu'on ne peut pas dire aux enfants de ne pas tricher à l'école. Et lorsqu'on se retrouve dans les périodes électorales, on s'érige en principal pourfendeur de la démocratie. Voilà, donc il faut que nous-mêmes aussi, on soit logique et cohérent envers nous-mêmes. Il faut que les parents eux-mêmes donnent l'exemple en arrêtant aussi de tricher. Parce que quand on a les élections, malheureusement, après les élections municipales et régionales, les élections couplées, on entend ça et là qu'il y a eu la tricherie.
Un peu partout,
tout le monde se plaint. Hein, de la commission électorale indépendante, parce qu'il y a eu des cas de fraude. Il y a eu des cas de fraude, il y a eu des cas de tricherie. Et quand nos jeunes voient cela, ils se disent, mais à quoi bon? Pourquoi on nous demande? Donc, pour moi, il faut qu'on évite de tomber dans tout ce qui est gabégie.
Message de fin aux familles?
Alors, il ne faudrait pas désespérer. Il ne faudrait pas désespérer. Être parent, c'est un sacerdoce. Être parent, c'est un métier. N'hésitez pas à demander de l'aide. Il faut savoir que nos enfants souvent traversent des zones de turbulence, mais il faut les accompagner et non les rejeter. Sinon, ils deviendront des dangers pour la société.
Merci, Gisela, et puis bonne journée.
Très bonne journée à vous.
C'était Sujet de discussion.